Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
Belle fin de journée, vous écoutez RTL quasiment 18h40. C'est donc l'heure de défaire le monde maintenant avec Cyprien Cini et toute la fine équipe. Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. L'info avec un autre regard jusqu'à 19h pour apprendre tout plein de choses et briller ensuite au dîner. Le menu Cyprien.
Ce soir, on défait le monde, vous offre une météo Covid. La rentrée est passée, les températures baissent, on fera un point précis sur l'état de la pandémie. Au menu également, Nicolas Dupont-Aignan et les sondages. Et en toute fin d'émission, la formidable histoire des mamies footeuses. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec le son du jour.
Sur le coronavirus, car maintenant que la rentrée est passée pour de bon et que les températures baissent sérieusement, que près de 75% de la population est vaccinée et que le pass sanitaire est entré dans notre quotidien, bah avec l'équipe dont défait le monde, on s'est dit que c'était le moment de faire un point précis sur l'état de l'épidémie.
Et on a voulu comparer, chiffre à l'appui, la situation d'octobre 2020 à celle d'aujourd'hui. On s'est demandé ce qui avait changé depuis un an et ce que ça pouvait laisser augurer pour cet hiver.
Et pour répondre à toutes ces questions, bah on a contacté l'épidémiologiste Antoine Flahaut. Il est professeur à l'Université de Genève. Avec ses équipes, il observe quotidiennement les chiffres de l'épidémie. Et d'abord, on lui a demandé de comparer pour nous la situation en France en octobre 2020 et en octobre 2021.
L'an dernier, 7 octobre 2020, il y avait pratiquement 15 000 cas par jour. Et puis, on peut dire qu'aujourd'hui, on est tombé au-dessous de 5 000. Hein. On est entre 4 et 5 000 cas par jour dans une phase qui est descendante. On est en décrue et elle devrait se poursuivre encore au moins une semaine, mais même peut-être plusieurs semaines. Donc on était en début d'une vague, de la deuxième vague l'an dernier à la même époque. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de vaccin encore, il y avait très peu d'immunité dans la population, alors qu'aujourd'hui on a une très forte immunité avec 75% de la population vaccinée. On a réussi à mettre le couvercle sur cette quatrième vague. On ne peut pas savoir encore si l'automne et l'hiver seront tout à fait tranquilles et s'il n'y aura pas à nouveau une résurgence comme on peut le voir dans d'autres pays en ce moment.
Oui, parce que c'est vrai qu'en France, ça va mieux, mais il y a des pays avec des taux de vaccination assez comparable où la situation est bien plus préoccupante.
Oui, notamment la Grande-Bretagne et puis dans une moindre mesure la Belgique et l'Allemagne. Alors, pourquoi on s'en sort mieux ? Ben, les explications d'Antoine Flahaut.
Je crois que les Français ont, de par l'usage du pass sanitaire, vraiment été très vigilants au cœur de l'été. Il faut se rappeler que les Britanniques, par exemple, ont tout relâché beaucoup trop tôt. Ils étaient en phase plutôt de remontée de cette vague estivale que nous avons tous connue en Europe. Hein, et au lieu de resserrer les vis, le Premier ministre avait décidé d'ouvrir et il n'a pas retardé son calendrier. Pour des pays comme la Belgique ou l'Allemagne, il n'y a pas un usage étendu du pass sanitaire aussi strict qu'en France. Vous savez, finalement, vous vous habituez à cela en France, mais c'est quand même pas habituel d'avoir à présenter un laissez-passer pour prendre un café. Vraiment, aujourd'hui, la France en engrange des fruits et des bénéfices.
Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va durer, cette histoire ?
Alors, c'est là que ça se complique, hein, parce que les prévisions Covid, c'est un peu comme pour la météo. À court, voire à moyen terme, c'est fiable. Et là, ça sent plutôt bon. En revanche, pour plus tard, ben, joker. Hein.
Là, on peut nous annoncé en effet que dans les quelques semaines qui vont venir, la France sera en situation de très beau temps vis-à-vis de la pandémie. Est-ce que ça annonce un très bel hiver ? Je peux absolument pas le dire, malheureusement. C'est tout à fait possible, on l'a connu, hein, que une vague revienne et des tensions, je dirais, sur le plan de l'épidémie réapparaissent et qu'il faille à nouveau se recouvrir, si je puis dire.
Voilà, donc on reste vigilant et ça explique aussi pourquoi le gouvernement a repoussé tout allègement du pass hein, dans l'immédiat. Aujourd'hui et a fixé une nouvelle date de réflexion au 15 novembre.
RTL, sous les radars.
Et oui, tous les soirs, on vous livre dans On défait le monde une info qui est passée inaperçue.
Et alors là, elle concerne la série coréenne dont tout le monde parle en ce moment. Un phénomène mondial, hein, vous regardez peut-être Squid Game. Mais alors, il y a une info sur cette série qui était passé sous les radars. Je me tourne vers vous, Laurent.
Oui, tous les producteurs, les plateformes sont complètement passés à côté de la série pendant plus de 10 ans. Je vous explique. Oh. Le réalisateur a commencé l'écriture de Squid Game en 2008. Il a terminé un an après. Bon, le projet de départ était un film et non pas une série. Et il a tenté de vendre son travail sans résultat. Personne n'était intéressé par son histoire d'hommes et de femmes endettés qui s'affrontent à des jeux de cours d'école et où les perdants sont exécutés. Oh.
Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent.
1, 2, 3. comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin.
Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé.
Le réalisateur...
Juste. Ceux qui ne sont pas premiers, on les exécute.
Ceux qui se trompent, ouais.
Exactement. Ah,
c'est terrible.
C'est terrible. Oh. Le réalisateur s'est alors consacré à 3 autres films sortis en 2011, 2014 et 2017.
Et alors, à quel moment il a réussi à ressortir son scénario du placard ?
Alors, le réalisateur est revenu sur le projet Squid Game une dizaine d'années après. Il adapte cette fois-ci en série, étoffe le scénario et il signe avec Netflix. Une adaptation qui a fonctionné car, selon lui, les thèmes abordés résonnent avec notre époque actuelle, à savoir les désirs des gens de toucher le jackpot, par exemple, par la crypto. Monnaie, l'immobilier ou encore les actions. Aujourd'hui, vous le savez, la série est en tête des audiences dans 92 pays.
C'est terrible.
Vous l'avez regardé ici ?
Moi, c'est en cours.
J'ai terminé.
Et alors ?
Je vous conseille de la regarder en coréen, en VO.
Avec les sous-titres. Arthur parle très régulièrement coréen, donc il n'a aucun problème.
Ne regardez pas trop le soir, parce qu'après pour dormir, c'est pas évident. J'ai fait l'expérience.
Oui, il faut être grand pour regarder quand même.
Très bien. Bon, ça me donne pas du tout envie, moi. Une petite pause. On continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. Nous allons parler de nos sages-femmes, ou plutôt de nos sages-hommes. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
L'info pour briller. Dans On défait le monde.
Allez, 18h48 minutes, c'est cadeau. Une info pour briller tout à l'heure au dîner dans On défait le monde sur RTL. C'est la première d'ailleurs, il y en aura deux comme chaque soir.
Et ce soir, c'est une info sur les sages-femmes qui manifestaient aujourd'hui pour réclamer de meilleurs salaires. Et Arthur, vous vous êtes demandé pourquoi il y avait beaucoup plus de sages-femmes femmes que d'hommes sages-femmes.
Oui, l'explication est plutôt simple, Cyprien. En fait, le métier de sage-femme a très longtemps été réservé aux femmes. Oui. En France, les hommes n'ont pu accéder à la profession qu'en 1982. Et c'est grâce à une directive de l'Europe en faveur de la non-discrimination sexuelle dans les métiers. Dans la foulée, la France a modifié la loi pour permettre aux messieurs de s'inscrire au concours d'entrée en école de sage-femme. Bon, pour la première en 82, il n'était qu'une poignée à se présenter. Aujourd'hui encore, c'est un métier qui reste largement féminisé. En 2020, seuls 2,8% des sages-femmes étaient des hommes.
Voilà, une info pour briller tout à l'heure au dîner.
Julien Cellier, Cyprien Sini,
on défait le monde.
Et place au verdict maintenant, parce que vous le savez, chaque soir, l'impitoyable Céline Landreau désigne soit son winner, soit son loser. En bref, si vous n'êtes pas totalement bilingue, le grand gagnant ou le grand perdant du jour.
Et c'est un loser ce soir, un grand perdant, Nicolas Dupont-Aignan, qui a fait du sondage, un concept à géométrie, mais alors très 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 variable, Céline.
Oui, car ce matin, Nicolas Dupont-Aignan était invité de LCI et il a été interpellé sur son score potentiel dans les derniers sondages d'intention de vote. 2%.
Vous croyez encore au sondage, Elisabeth Martichoux ? Vous y croyez encore sincèrement ? Les sondages, les histoires, j'en ai rien à faire.
Alors, rien à faire des sondages, assure le député de Debout la France, candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle, qui, il y a 5 ans, déjà répondait ainsi.
Et les sondages, on les emmène.
C'est récurrent chez lui, cette haine des sondages.
C'est une honte, ces sondages, une honte.
Un scandale, on vous dit.
J'accuse les sondages de manipuler l'opinion.
Et donc, il recommande naturellement à ses électeurs...
Et je vous invite à ne jamais regarder les sondages.
Non, surtout ne pas les regarder. Enfin, parfois, c'est quand même bien pratique de les utiliser pour muscler son discours.
Sarkozy, 78% des Français ne veulent pas le voir revenir. Hollande, 75% des Français ne veulent pas entendre parler d'un second mandat. Et Marine Le Pen, je crois que c'est 69%.
Oui, vraiment, il y a certains moments dans la vie politique où Nicolas Dupont-Aignan leur trouve beaucoup moins de défauts au sondage. Ici, par exemple, quelques mois avant les dernières élections européennes.
Qu'on n'a jamais eu autant de gens à Debout la France, les sondages n'ont jamais été aussi bons, ça prouve quand même quelque chose.
Bah oui, ça prouve quand même quelque chose.
C'est dur.
Oui, mais voilà, il arrive quelques semaines plus tard que les courbes s'inversent, et là...
Les élections européennes approchent, et les sondages fleurissent. Et on apprend, patatras, que la liste Debout la France n'aurait même pas d'élus, avec 3,5% ou 4% des voix. Il est inacceptable que l'on fasse croire aux Français que notre liste n'aura pas d'élus alors qu'elle en aura.
Et oui, parce que...
Vous croyez pas les sondages ?
Ah mais pas du tout, j'ai toujours fait le double de ce qu'on me donnait.
Oui. La preuve, le 26 mai 2019 au soir...
Debout la France, la liste de Nicolas Dupont-Aignan est à 3,5%, les autres partis 3,5% également.
3,5%, pas d'élus, donc, au Parlement européen. Oui, parce que parfois, les sondages ne disent pas n'importe quoi.
Ouais, vous êtes vraiment impitoyable. Ah ouais.
Enfin, c'est les archives, c'est voilà. Pas moi.
Enfin, là, il est allé tout seul, Nicolas Dupont-Aignan.
Les archives sont impitoyables. Merci beaucoup, Céline. Allez, une petite pause. Dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. Une histoire de foot et de famille. Juste après ça, à tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
Pénible.
L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h53, vous êtes peut-être en cuisine en train de préparer tranquillement le dîner.
Un bon repas.
Qui c'est qui fait des comme
c'est
ça
moi.
C'est
j'ai
faim. Vous avez faim. Ouais. 18h53, 54, donc vous êtes peut-être en cuisine en train de préparer à manger. On vous livre chaque soir, vous le savez, deux infos pour briller un petit peu plus tard autour de la table en famille. Voici la seconde.
Et c'est l'ancienne sport-étude football qui nous parle de sa connaissance encyclopédique du ballon rond. Nous sommes tout oui, Céline, on vous écoute.
Oui, ils sont à Turin ce soir, les frères Hernandez, Lucas et Théo, tous deux convoqués par Didier Deschamps pour affronter la Belgique dans un peu moins de deux heures maintenant en Ligue des Nations, on en a beaucoup parlé. Eh bien, ce ne sont pas les premiers frères à porter le maillot des Bleus. Avant eux, il y a eu par exemple les Révelli, on en parle là aussi souvent, Patrick et Hervé, qui ont même joué deux matchs ensemble dans les années 70. Les pionniers, en revanche, sont moins connus. Il s'agit des frères Charles et Georges Billot.
Ah oui, je me souviens.
Alors, je connaissais pas. Faites vraiment pas votre âge, Julien. Ils ont joué ensemble le tout premier match de l'équipe de France. C'était le 1er mai 1904. À Bruxelles, c'était déjà face à la Belgique.
Ça, déjà c'est rigolo. Une histoire de famille. Alors ça, c'est une très bonne info pour briller. Ouais. Puisque je dois voter chaque soir et que je suis l'arbitre en quelque sorte, parce qu'on parle de football, je choisis Céline, mais parce que j'ai vraiment hâte de voir Lucas et Théo Hernandez côte à côte. Ce sera ce soir, sans doute, on l'espère. Hein,
face
en tout cas,
rouge.
On attend la composition d'équipe face aux Belges. Demi-finale de la Ligue des Nations, prise d'antenne 20h40, coup d'envoi du match 20h45 à vivre, évidemment, sur RTL.
Marche ou rêve.
Et tous les soirs, on vous appelle et vous nous racontez de jolis projets. On va continuer de parler ballon ce soir parce que c'est jeudi.
Et aujourd'hui, le jeudi, comme tous les jeudis, on défait le monde, c'est sport. Et là, on a changé le jingle, on a mis celui-là en hommage, évidemment, à Bernard Tapie. On met en valeur vos projets et vos initiatives qui font transpirer. Et Laurent, on continue à parler foot et les Bleus qui jouent ce soir n'ont qu'à bien se tenir, hein, puisque vous nous présentez une équipe de foot assez hors du commun.
Ah oui, les mamies aussi tapent dans le ballon. L'association Footeuse à tout âge a été créée en 2019. Des joueuses à de plus de 50 ans présentes partout en France et qui se retrouvent sur les terrains. Marie-France a 58 ans. Elle est la présidente. Bonsoir Marie-France.
Bonsoir.
Vous avez commencé à taper dans le ballon rond. Alors, il y a deux ans, qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur le terrain et enfiler le short?
Alors, c'est un défi qui a été lancé par les résidences seigneuriales pour répondre à un vœu de mamies sud-africaines qui jouent au foot et qui voulaient voir leur équipe lors de la Coupe du Monde en France. Donc elles sont montées, mais elles voulaient faire un match contre des mamies françaises. Et comme il n'y en avait pas, le président des seigneuriales s'est dit qu'il allait trouver parmi toutes ces résidences bien une quinzaine de femmes qui voudraient jouer au foot. Et en plus, c'est que des débutantes, que des femmes qui n'ont jamais tapé dans le ballon, qui ont relevé le défi. Donc voilà, oui, c'est comme ça que j'ai commencé.
Et alors, c'était comment la première fois?
Ah oui, on a bien aimé. Bon, déjà, on s'est un petit peu entraîné quand même. On s'est rencontrés une fois. Et lorsque l'on a fait le match contre les Sud-Africaines, ben, on a réussi à toucher le ballon, mais les buts, c'était que dans notre coin, quoi.
Oui. Ah. Et là, c'est devenu quoi là? C'est devenu la gagne maintenant ou c'est quand même toujours pour s'amuser?
Alors, c'est toujours pour s'amuser, mais au lieu que ça reste au niveau des seigneuriales, avec deux copines, on s'est dit qu'on allait créer l'association Footeuse à tout âge pour permettre à d'autres femmes dans toute la France de faire comme nous, parce que c'est vraiment génial. On oublie les problèmes de santé, on a plus mal partout pendant qu'on s'amuse, pendant qu'on s'entraîne.
Après, bon, on
après,
a mal.
Après, c'est autre chose. Ah oui. Le retour à la maison, descendre de la voiture après l'entraînement, on se rappelle, oui, qu'on a mal quelque part.
Mais là, vous vous entraînez chaque semaine, vous avez des matchs tous les mois. Comment ça se passe, Marie-France?
Alors, on s'entraîne chaque semaine, chacune dans un club près de chez nous. Et le but, c'est d'apprendre, de s'entraîner et d'apprendre à taper dans le ballon pour faire des tournois en fin d'année, dès le printemps. La plus âgée dans l'association, elle a 74 ans.
Et elle, elle joue au foot?
Ah oui, mais avec les mamies, la plus âgée avait 84 ans.
Et vous jouez quel poste, Marie-France?
Alors, au départ, on n'a pas vraiment de poste, mais cet été, comme on a fait un tournoi et on avait une jeune éducatrice qui a adhéré à l'association et qui veut être avec nous lors des tournois, eh ben, mamie arrière, centre.
Ah ouais, vous êtes le Laurent Blanc de l'équipe des mamies, quoi.
Voilà, on dit comme un peu, dans le temps, c'était le libéro, quoi.
Exactement.
Bah, superbe initiative.
Ça me donne envie d'aller jouer au foot, moi, quand je vous écoute.
On peut organiser un match, on défait le monde contre les mamies. Hein.
Ah bah ouais.
Sauf que je vous rappelle qu'on n'est pas assez nombreux, nous.
Oh, bah on peut
vous
toujours trouver.
Des choses.
On viendra vous voir, en tout cas.
Voilà, c'est bien.
Bon, bah, on va ressortir nos crampons, on est prêts, nous.
Merci beaucoup, ouais, ouais. Marie-France. Merci beaucoup et bravo à l'association footeuse à tout âge qui a été créée en 2019. Et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur le site internet et la page Facebook. Merci à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée, Marie-France. Et rendez-vous est pris pour le match. On mettra Céline prêt, en pointe, ex-sport études foot.
On est
ça démarre mal, coach.
Vous êtes un peu la Benjamin Pavard de cette équipe dont défait le monde, chère Céline. On vous souhaite un bon week-end, les amis, dont défait le monde, parce qu'on vous retrouve lundi.
Tout à fait.
Pourquoi ? Parce que le vendredi, dans RTL Soir, 18h40, on refait nos
régions.
Exactement. On sera comme chaque vendredi, au plus près de vos combats, de vos terroirs. Les auditeurs, on sera près de chez vous demain à 18h40. Bon week-end.